Chapitre 10 Le cimetière. Le médecin avait prévu juste. L'état de Lisa empira plus que Veslaninov et Klavdia Petrovna ne se l'étaient figuré la veille. Quand Veslaninov arriva le matin, la malade avait encore toute sa connaissance, bien qu'elle fût brûlante de fièvre. Il jura plus tard qu'elle lui avait souri et que même elle lui avait tendu sa petite main. Était-ce vrai ou n'était-ce qu'une illusion consolante qu'il se donnait? Il n'était plus temps de le vérifier. Quand vint la nuit, elle avait perdu connaissance et elle resta ainsi jusqu'à la fin. Le 10e jour après son arrivée chez les Polgoretsev, elle mourut. Les journées qui précédèrent la mort furent affreuses pour Veslaninov. Les Polgoretsev craignirent pour lui. Il passa auprès d'eux la plus grande partie de cette période d'angoisse. Durant les derniers jours, il resta des heures entières seul, n'importe où, dans un coin, sans penser à rien. Klavdia Petrovna venait parfois le distraire, mais il répondait à peine et parfois laissait voir que ses entretiens lui étaient pénibles. Elle n'eût pas cru qu'il souffrirait autant. Seuls les enfants parvenaient à le distraire. Il riait même parfois avec eux, mais à tout instant il se levait et allait sur la pointe des pieds voir la malade. Il lui sembla plusieurs fois qu'elle le reconnaissait. Il n'avait aucun espoir de la voir guérir, pas plus que personne, mais il ne pouvait s'éloigner de la chambre où elle se mourait, et il se tenait habituellement dans la pièce voisine. Deux fois au cours de cette période, il fut pris d'un besoin extrême d'agir. Il partit, courut à Pétersbourg, alla voir les médecins les plus réputés et les réunit en consultation. La dernière eut lieu la veille même de la mort. Trois jours après, Klavdia Petrovna lui avait dit qu'il était indispensable de retrouver coûte que coûte M. Troussotsky. En cas de malheur, il serait même impossible de l'enterrer sans la présence de son père. Veslaninov avait répondu d'un air distrait qu'il lui écrirait. Le vieux Pogorelsev avait alors déclaré qu'il le ferait rechercher par la police. Veslaninov avait fini par écrire un mot très laconique et l'avait lui-même porté à l'hôtel. Pavel Pavlovitch était absent, comme d'habitude, et il dut confier la lettre à Maria Sisoevna. Lisa mourut enfin par une admirable soirée d'été, tandis que le soleil se couchait. Ce fut comme si Veslaninov sortait d'un rêve. Quand on l'eut emportée, quand on l'eut habillée d'une petite robe blanche, la robe de fête de l'une des enfants de la maison, quand on l'eut couchée, les mains jointes, sur la table du salon, couverte de fleurs, il s'approcha de Klavdia Petrovna et les yeux étincelants lui déclara qu'il allait chercher l'assassin et qu'il le ramènerait immédiatement. Il ne voulut entendre aucun conseil, refusa d'ajourner au lendemain et partit pour la ville. Il savait où trouver Pavel Pavlovitch. Lorsque, durant ces derniers jours, il était venu à Pétersbourg, ce n'était pas uniquement pour voir des médecins. Il lui avait parfois semblé que, s'il pouvait ramener à Lisa, son père, elle reviendrait à la vie en entendant sa voix. Et puis, découragé, il avait renoncé à le chercher. Pavel Pavlovitch habitait encore au même endroit, mais il n'était pas question de le trouver chez lui.
Oh, et quelquefois trois jours sans coucher ici, sans même rentrer, racontait Maria Sisoevna. Quand par hasard il revient, l'ivrogne reste une heure et repart. Il ne garde plus la décence.
Le garçon de l'hôtel apprit à Veslaninov que, depuis longtemps déjà, Pavel Pavlovitch allait voir des filles qui habitaient sur la perspective de Vosnensky. Veslaninov n'eut pas de peine à trouver des filles. Quand il les eut bien régalées et bien payées, elles se rappelèrent très vite leurs clients, Ah, le chapeau aux crêpes les avait frappés, et se plaignirent beaucoup de ne plus le voir. L'une d'entre elles, Katia, déclara qu'il était très facile de trouver Pavel Pavlovitch, attendu qu'il ne quittait plus Mashka Prostakova. Katia ne pensait pas pouvoir le trouver sur le champ, mais elle promit formellement pour le lendemain. Evelslaninov fut réduit à compter sur son aide. Il revint donc le lendemain à 10 heures, alla prendre Katia et se mit en quête avec elle. Il ne savait encore pas lui-même ce qu'il ferait de Pavel Pavlovitch, s'il le tuerait sur place ou s'il se contenterait de lui annoncer la mort de sa fille et de lui expliquer que sa présence aux obsèques était indispensable. Les premières recherches furent infructueuses. Ils apprirent que Mashka Prostakova s'était battue avec Pavel Pavlovitch il y avait 3 jours et lui avait jeté un petit banc à la tête. Enfin, à 2 heures du matin, Vetchlaninov, au moment où il sortait d'un cabaret qu'on lui avait indiqué, se trouva nez à nez avec lui. Pavel Pavlovitch était complètement ivre. 2 femmes l'entraînaient vers le cabaret. L'une des femmes le soutenait par le bras. Un grand gaillard les suivait de près, criant à tue-tête et faisant à Pavel Pavlovitch de furieuses menaces. Il hurlait, entre autres choses, qu'il l'avait exploité et qu'il avait empoisonné sa vie. Il s'agissait vraisemblablement d'argent. Les femmes avaient une peur terrible et se hâtaient tant qu'elles pouvaient. Lorsqu'il aperçut Vetchlaninov, Pavel Pavlovitch se jeta sur lui les mains tendues et cria, comme si on l'égorgeait, « Frère, au secours !» Le gaillard qui les suivait n'eut pas plutôt vu la silhouette redoutable de Vetchlaninov qu'il disparut en un clin d'œil. Pavel Pavlovitch, tout fier de sa victoire, lui montrait le poing, poussait les cris de triomphe. Mais Vetchlaninov l'employa violemment par les épaules et, sans savoir lui-même pourquoi, se mit à le secouer de toute la force de ses bras de telle façon que l'autre claquait des dents. Pavel Pavlovitch cessa aussitôt de crier et le regarda avec une stupéfaction imbécile d'ivrogne. Vetchlaninov, ne sachant pas qu'en faire, sans doute, pesa fortement sur lui et le campa assis sur une borne. « Lisa est morte !» lui dit-il. Pavel Pavlovitch continua à le regarder, assis sur sa borne et maintenu en équilibre par l'une des femmes. Il finit par comprendre et ses traits s'affaissèrent. « Elle est morte ?» murmura-t-il d'un air étrange. Était-ce tout simplement son large et ignoble sourire, ou y eut-il en effet quelque chose de sournois et de mauvais qui passa dans ses yeux? Vetchlaninov ne put s'en rendre compte. Un instant après, Pavel Pavlovitch se leva avec effort la main droite pour faire un signe de croix, mais la croix resta inachevée et la main tremblante retomba. Un peu après encore, il se leva péniblement de sa borne en se cramponnant à la femme, s'appuya sur elle et se remit en route comme si de rien n'était, sans plus s'occuper de Vetchlaninov. Celui-ci l'employa de nouveau par les épaules. « Comprendras-tu, brute d'ivrogne, qu'on ne peut renterrer sans toi ?» cria-t-il, étouffant de colère. L'autre retourna la tête vers lui. « Sous-lieutenant d'artillerie, vous savez ?» bégaya-t-il en langue lourde. « Quoi ?» s'écria Vetchlaninov tout tremblant. C'est lui, le père. Cherchez-le pour l'enterrement. Tu mens, hurla Vetchlaninov dans une rage folle. Canaille!
Je savais bien que tu me servirais cela. »
Hors de lui, il leva le poing sur la tête de Pavel Pavlovitch. Encore un moment, il allait l'assommer, peut-être. Les femmes poussèrent des cris perçants et s'écartèrent, mais Pavel Pavlovitch ne broncha pas. Sa figure se contracta tout entière dans une expression de méchanceté sauvage et basse.
« Tu sais, » dit-il d'une voix ferme, comme si l'ivresse l'avait quitté, « tu sais ce que nous disons en russe ?»
Il prononça un mot qui ne peut s'écrire.
« Voilà pour toi, et maintenant, allez, Yerpi, et vivement !»
Il se dégagea des mains de Veslaninov, si violemment qu'il faillit tomber tout son long. Les femmes le soutinrent et l'emmenèrent très vite, en le traînant presque, et Veslaninov ne les suivit pas. Le lendemain, à 1 heure, arriva chez les Pogorelsev un monsieur fort bien, d'âge mûr, un fonctionnaire en uniforme. Il remit très poliment à Klavdia Petrovna un paquet à son adresse de la part de Pavel Pavlovitch Troussotsky. Le paquet contenait une lettre, 300 roubles et les papiers nécessaires concernant Lisa. La lettre était courte, très déférente, parfaitement correcte. Il exprimait toute sa grâce à son excellence. Klavdia Petrovna, pour la bonté et l'intérêt qu'elle avait témoigné à l'orpheline, et ajoutait que Dieu seul pourrait le lui rendre. Il expliquait vaguement qu'une indisposition assez grave ne lui permettait pas de venir en personne assister aux obsèques de sa chère et pauvre enfant, et il s'en remettait pour tout cela en toute confiance à l'angélique bonté de son excellence. Les 300 roubles, ajoutait-il, représentait les frais de l'enterrement et les dépenses qu'avait occasionnées la maladie. Si la somme était trop forte, il la priait très respectueusement d'affecter l'excédent à des messes pour le repos de l'âme de Lisa. Le fonctionnaire qui apportait la lettre ne put rien ajouter. Il était clair seulement, d'après les quelques mots qu'il prononça, que Pavel Pavlovitch avait dû insister fortement pour obtenir de lui qu'il acceptât cette mission. Pogorelsev fut exaspéré par l'expression « les dépenses qu'avait occasionné la maladie ». Il évalua les frais de l'enterrement à 50 roubles, on ne pouvait empêcher le père de payer les obsèques de sa fille, et voulut renvoyer sur le champ à M. Troussotsky les 250 roubles restants. Finalement, Klavdia Petrovna décida qu'on ne lui retournerait pas, mais qu'on lui ferait parvenir un reçu de l'Église attestant que les 250 roubles avaient été consacrés à des services pour le repos de l'âme de l'enfant. Dans la suite, ce reçu fut remis à Veslaninov, qui l'adressa par la poste à Pavel Pavlovitch. Après l'enterrement, il disparut. 2 semaines entières, il erra par la ville, sans but, seul, absorbé au point qu'il se heurtait aux passants. Parfois, il restait toute la journée étendu sur son divan, oubliant tout jusqu'aux choses les plus élémentaires. Les Pogorelsev, à maintes reprises, l'invitèrent avec insistance, il promettait, et puis il n'y songeait plus. Klavdia Petrovna vint un jour en personne, mais ne le trouva pas chez lui. Son avocat réussit à le joindre. Un arrangement facile se présentait enfin, la partie adverse consentait à une entente. Il suffisait de renoncer à une parcelle tout à fait insignifiante de sa propriété. Il ne manquait plus que le consentement de Veslaninov. L'avocat fut stupéfait de rencontrer une indifférence et une nonchalance parfaites chez le client méticuleux et agité de jadis. On était aux plus chaudes journées de juillet, mais Veltchaninov oubliait même le temps. Il souffrait sans relâche d'un chagrin cuisant comme un abcès mûr. À chaque instant, des pensées lui venaient qui le torturaient. Sa grande douleur, c'était que Lisa n'eût pas eu le temps de le connaître, qu'elle fût morte sans savoir combien sa tendresse était ardente. Le bruit unique de sa vie, ce but qu'il avait entrevu dans une heure de joie, avait disparu à jamais dans la nuit. Ce but qu'il avait rêvé et auquel maintenant il pensait à toute minute, c'était que chaque jour, à chaque heure de sa vie entière, Lisa sentit la tendresse qu'il avait pour elle. Non, songeait-il parfois dans une exaltation désespérée, non, il n'y a pas au monde de but plus élevé pour l'existence. S'il en est d'autres, il n'en est pas de plus sacré. À l'aide de mon amour pour Lisa, j'aurais purifié, j'aurais racheté tout mon passé absurde et inutile. J'aurais chassé de moi l'homme oisif, vicieux et blasé que j'ai été. J'aurais élevé pour la vie un petit être pur et charmant, et au nom de ce petit être, tout m'aurait été pardonné. Moi-même, je me serais tout pardonné. Ces pensées lui venaient toujours à l'esprit, accompagnées de la vision claire, très proche, émouvante, de l'enfant morte. Il revoyait la pauvre petite figure toute blanche, il en revoyait l'expression. Il la revoyait dans le cercueil parmi les fleurs, il la revoyait sans connaissance, brûlée par la fièvre, les yeux fixes, grands ouverts. Il se rappelait l'émotion profonde qu'il avait eue lorsqu'il l'avait vue étendue sur la table et qu'il avait remarqué que l'un de ses doigts était devenu presque noir. La vue de ce pauvre petit doigt lui avait donné une envie violente de retrouver Pavel Pavlovitch à l'instant même et de le tuer sur place. Était-ce assez de sa fierté humiliée qu'étant mort ce petit cœur d'enfant, ou bien était-ce les 3 mois de souffrance que lui avait fait endurer son père, l'amour subitement changé en haine, les paroles de mépris, le dédain pour ses larmes, et finalement son abandon aux mains d'étrangers? Tout cela lui revenait à l'esprit sans cesse, sous 1000 formes diverses. Savez-vous ce que Lisa a été pour moi? Il se rappela ce cri de Troussotsky, et il sentit que ce n'avait pas été une grimace, que son déchirement était sincère, que c'était de la tendresse. Comment ce monstre avait-il pu être si cruel pour l'enfant qu'il adorait? Était-ce croyable? Mais toujours il écartait la question et la fuyait. Elle contenait un élément d'incertitude terrible, quelque chose d'intolérable et d'insoluble. Un jour, sans qu'il sût lui-même comment, il arriva au cimetière où Lisa était enterrée. Il n'y était pas venu depuis les obsèques. Il lui semblait que la douleur serait trop forte et il n'osait pas. Chose étrange, quand il se fut incliné sur la pierre qui la recouvrait et qu'il l'eut baisée, il se sentit le cœur moins oppressé. C'était par une claire soirée. Le soleil descendait à l'horizon. Autour de la tombe poussait une herbe dure et verte. Tout près, une abeille bourdonnait, volant d'une églantine à l'autre. Les fleurs et les couronnes que les enfants de Klavdia Petrovna avaient laissées sur la tombe étaient encore là, à demi effeuillées. Pour la première fois depuis longtemps, une sorte d'espérance illumina son cœur. Comme il fait doux, songea-t-il, et il se sentait envahi par la paix du cimetière, et il regardait le ciel clair et calme. Il sentit affluer une sorte de joie pure et forte qui lui emplit l'âme. C'est Lisa qui m'envoie cette paix, c'est Lisa qui me parle, songea-t-il. Il faisait tout à fait nuit quand il quitta le cimetière pour rentrer. Tout près de la porte du cimetière, au bord de la route, il vit une petite maison de bois, une sorte de cabaret. Les fenêtres étaient larges, ouvertes. Des gens étaient là, autour des tables, et buvaient. Soudain, il lui sembla que l'un d'entre eux, qui regardait par la fenêtre, était Pavel Pavlovitch, qu'il avait aperçu et qu'il le considérait avec curiosité. Il continua son chemin. Bientôt, il entendit qu'on cherchait à le rejoindre. C'était en effet Pavel Pavlovitch. Sans doute, l'air calme de Velchaninov l'avait enhardi. Il l'aborda, l'air craintif, sourit, mais non plus de son sourire d'ivrogne. Il n'était pas ivre. « Bonjour, » dit-il. « Bonjour, » répondit Velchaninov.